Ok, merci pour le résumé, un très bon résumé de ce qu'on a dit. L'idée qu'il y a longtemps, avant qu'on puisse imaginer cela, il y a des milliards d'années avant le Big Bang, avant que le temps existe d'ailleurs, Dieu avait décidé de faire un peuple. Et ce qui était encore plus extraordinaire, c'est que Dieu, dans sa toute-puissance, savait que les choses n'allaient pas se passer aussi facilement que cela. Parce que s'il voulait un peuple qui l'aime, il fallait que ce soit des êtres libres pour l'aimer ou ne pas l'aimer. Et il avait même vu qu'il y aurait un refus d'aimer Dieu. Et comment on le sait? C'est Pierre qui nous le dit dans sa première épître, où il dit que nous avons été rachetés, non pas par des choses périssables, comme de l'argent ou de l'or, c'est le chapitre 1 et le verset 18, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Donc le sacrifice de Jésus était décidé avant même la création de l'univers, parce que Dieu savait qu'il y aurait une rébellion, et malgré tout cela, il a décidé de créer cet univers, et avec cette planète, petite planète perdue, on peut dire, dans cette galaxie qui s'appelle la Voie lactée, perdue entre des milliards d'autres galaxies. Et puis, sur cette planète, il a placé ce peuple. Et comme j'ai dit, la tragédie, c'était que les êtres humains n'ont pas voulu vivre cela. Mais il avait prévu le retour, et ce retour, comme on vient de le dire, c'est par cet agneau, Jésus, mort pour nous, cet agneau sans défaut, sans tâche, prédestiné avant la fin des temps, pour que nous, c'est le verset 21, je le lis exactement, par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, ces personnes rachetées par le sang de Jésus, c'est son peuple, c'est l'Église. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais demander à deux personnes de distribuer cette petite feuille qui sera le résumé de cette séance. C'est plus facile pour prendre des notes quand vous avez un petit papier. C'est pour ça que les étudiants en France n'aiment pas trop le PowerPoint, parce qu'ils sont obligés d'écrire tout ce qui est sur le PowerPoint, alors que si on leur donne un papier, la moitié est déjà écrite. Donc je réserve le PowerPoint pour mes prédications à l'église. Donc sur cette feuille, vous allez voir, vous voyez déjà, l'Église universelle, l'Église locale. Et donc, il faut comprendre ces termes, qui sont des termes de théologiens. Le mot n'est pas en tant que tel dans le Nouveau Testament, mais la réalité y est. C'est-à-dire que parfois, quand on lit un texte, et vous, dans un sens, vous êtes heurté un peu à ça tout à l'heure avec Éphésiens 4, il faut savoir si le mot « église » veut dire l'ensemble des chrétiens dans le monde entier, donc l'église universelle, ou est-ce qu'il s'agit de l'église locale, qui est une parcelle visible de cette église universelle. Et le contexte nous le montre. J'ai fait une étude où j'ai cherché toutes les références dans le Nouveau Testament, pour savoir s'il s'agissait de l'Église locale et de l'Église universelle. Et le contexte est extrêmement clair. Je ne me souviens plus combien de références il y avait, mais sur, je pense, une quarantaine ou quelque chose comme ça, il n'y avait qu'un ou deux versets où on aurait pu comprendre soit local, soit universel. Le reste, c'est clair. Donc, le peuple de Dieu racheté, c'est l'ensemble qu'on appelle l'Église universelle. Et sur cette feuille, j'ai dit, donc, ses membres appartiennent à toutes les nations, à toutes les tribus, à tous les peuples, à toutes les langues. Apocalypse 7 nous le dit, où auprès de Dieu au ciel, on chante et on affirme, tu as racheté pour Dieu des hommes, des femmes, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que de nos jours, les transports sont plus faciles qu'avant, que ce soit ici, chez vous, au Gébu, que ce soit à Paris, dans une même église, on peut avoir des gens de toute nation, de tout peuple, de toute langue, etc. C'est absolument extraordinaire. Et quand j'étais pasteur dans la banlieue de Paris, on avait, je disais souvent, une église en quatre quarts, parce que c'est le nom d'un gâteau en France, parce qu'on avait à peu près un quart de Français de souche, comme on dit, un quart de chrétiens africains, un quart de chrétiens antillais, et un quart de tamouls, donc de l'Inde. Et c'était extraordinaire de vivre ensemble. Il y a donc que par le Seigneur qu'on puisse avoir cette remarquable unité de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Mais donc l'Église universelle est formée de toutes ces personnes. Et les théologiens en général vont encore plus loin pour dire, et c'est la deuxième ligne, que cette Église comprend également les véritables croyants de l'Ancienne Alliance et de toutes les générations depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Christ. Donc l'Église universelle, c'est l'ensemble des rachetés. Même de ceux qui, par anticipation, avaient cru en Dieu dans l'Ancien Testament, avant que Jésus n'arrive. Et puis tous les croyants de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, et peut-être d'autres qui vont encore naître. Ça, c'est l'Église universelle. Et si vous voulez encore distinguer deux, trois termes, c'est intéressant, ce sont des termes théologiques, mais ça nous aide un peu à comprendre. On parle des fois de l'Église triomphante, donc ça, ce sont tous les chrétiens déjà morts, qui sont auprès du Seigneur, donc qui savent, qui sont présentes auprès du Seigneur, qui triomphent déjà. Par contre, l'Église militante, c'est nous. Parce que militer, ça veut dire combattre, le bon combat, dont Paul a parlé. En latin, miles veut dire un soldat, nous sommes les soldats de Christ, nous sommes là pour combattre pour son nom, combattre pour lui, et contre le péché, contre les forces maléfiques, mais pas contre les personnes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, Ephésiens 6. Donc, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des problèmes. Ça, c'est sûr. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez être zen, il faut être bouddhiste. Si vous voulez vivre la paix de Dieu au cœur des combats, sachant que nous avons la vie éternelle, racheté par Christ, là il faut être chrétien. Et puisque le chrétien est appelé à aimer les autres, il ne peut pas rester zen, parce que les autres sont dans de telles situations difficiles que l'on doit même pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ça c'est Romains 12. Donc on ne peut pas simplement être indifférent pour être zen. Mais le Seigneur peut nous donner sa paix au sein de ce bon combat. Donc nous sommes l'Église militante. Et puis, le troisième terme qu'on utilise des fois, c'est l'Église invisible. Parce que nul, sauf le Seigneur lui-même, ne sait qui fait vraiment partie de son corps. Lui, il sait ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Nous, on ne sait pas. On cherche à savoir. Si on est pasteur comme je le suis, de temps en temps, on fait des baptêmes. Donc, il faut essayer de discerner si quelqu'un est vraiment converti ou non. On fait de son mieux. Mais seul Dieu connaît vraiment les personnes qui lui appartiennent. Et cette Église est invisible. On espère et on prie pour que l'Église visible, donc nos églises locales, correspondent le mieux possible à l'Église invisible. Mais parfois, on a des surprises. quelqu'un qui marchait bien avec le Seigneur. Puis tout d'un coup, il laisse tomber. Pourquoi ? On ne sait pas. Donc, l'Église invisible, il n'y a que Dieu qui le connaisse. Maintenant, on va passer, enfin, au sujet de ce week-end, l'Église locale. Il y a des questions, mais il y a des questions ce soir aussi. Donc...
C'est après les questions ?
Ouais. Est-ce qu'on peut poser des questions maintenant ? Oui, on peut. Mais pas trop, parce qu'il y a une séance de questions ce soir. Donc, ok, on prend la question. Je vais prendre la question.
Je voulais avoir plus de précisions sur l'ancienne alliance.
Oui.
Et puis, avant la Pentecôte, est-ce que cette période-là, il n'y a pas eu de chrétien, parce que toutes les générations, depuis la Pentecôte.
Oui, d'accord. Bon, d'abord... C'était peut-être mon interprétation, mais je ne suis pas seul à le penser, que, en fait, l'ancienne alliance existait jusqu'à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que la nouvelle alliance commence véritablement, si on veut. Bon, il y a une situation un peu intermédiaire. Et on le voit avec les disciples qui comprenaient petit à petit. À un certain moment, Jésus a soufflé pour dire « recevez le Saint-Esprit ». Mais est-ce qu'ils l'ont reçu à ce moment-là ou est-ce que c'était en prévision de la Pentecôte ? Bon, les avis peuvent diverger. Mais moi, j'aurais tendance à dire que l'ancienne alliance a continué jusqu'à la Pentecôte. Et là, c'est vraiment la nouvelle alliance qui commence à 100%. Alors, pour l'ancienne alliance, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais... est-ce que ça veut dire qui a pu être sauvé au moment... Est-ce que c'est question ou...
En fait, qu'est-ce que ça constitue une ancienne alliance ? Est-ce que c'est... En fait, je veux vraiment comprendre...
Ouais, d'accord. Alors, étant un peu simplificateur, mais je veux dire que l'ancienne alliance, c'était deux choses. D'abord, un peuple, le peuple d'Israël, et... une alliance avec Dieu sous condition, si vous écoutez ma voix, si vous mettez en commandement si vous mettez en pratique mes commandements, vous serez mon peuple. La nouvelle alliance, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ, donc ce n'est pas un seul peuple, et c'est la grâce, nos péchés sont pardonnés, et c'est pour ça que l'on connaît Dieu. Mais cela dit, dans l'ancienne alliance, il y avait aussi les sacrifices que les sacrificateurs offraient continuellement pour le péché. Donc, il y avait aussi cette possibilité quelque part de demander pardon et d'avoir le pardon de ses péchés. Mais l'Épître aux Hébreux montre la limite qui dit c'était la purification de notre corps, en quelque sorte. C'est un peu externe et pas la purification du cœur. Et pour ça, il fallait le sang de Jésus. Mais cela dit, ceux qui croyaient vraiment et qui avaient demandé pardon à Dieu par les sacrifices de l'Ancien Testament, par anticipation, c'est comme s'ils croyaient en Jésus qui n'était pas encore venu, qui était le vrai sacrifice. Ok ? Je ferme la parenthèse. Et on arrive à l'Église locale. Donc, l'Église locale, pourquoi une Église locale ? Bah, tout simplement parce que nous sommes des millions et des millions de chrétiens dans le monde entier, sur tous les continents. Et si on veut vraiment avancer ensemble avec cette expression que l'on retrouve très très souvent dans le Nouveau Testament, les uns les autres, bon, il faut que ce soit avec des gens que l'on connaît. Donc cette Église universelle est divisée en petites églises locales. Et donc, on est appelé donc à faire partie de ce groupement local qui n'est pas parfaite, mais qui fait partie de l'Église universelle. Elle n'est pas parfaite pour la simple raison qu'elle est composée de chrétiens imparfaits et que nous voulons avancer ensemble. Et vous savez que la plupart des lettres du Nouveau Testament ont été rédigés et envoyés parce qu'il y avait des problèmes dans des églises. Ce n'étaient pas des lettres envoyées des églises parfaites. Parfois on dit l'église primitive était super et merveilleuse. Pas plus que nous. Hein? Pas plus que nous. J'ai une petite blague que je raconte des fois. Deux chrétiens qui se retrouvent comme cela par hasard en ville, sur le trottoir. Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et le premier dit, ah, salut Jean, comment ça va? Et Jean dit, ah ouais, ça va bien. Maintenant, je fais partie d'une église conforme au Nouveau Testament. Et le premier dit, ah oui, on a beaucoup de problèmes dans notre église aussi. Parce que conforme au Nouveau Testament, c'est ça. Il y avait des problèmes dans les églises. Et Paul devait écrire ses lettres pour essayer de les résoudre. Donc, si vous cherchez une église parfaite, comme église locale, et si vous trouvez une église parfaite, il ne faut surtout pas y aller, parce que dès ce moment, elle ne sera plus parfaite, parce que toi, tu y seras. Donc, ça, c'est la réalité d'une église. Mais en même temps, c'est un lieu absolument extraordinaire. Donc, je suis un grand fanatique de l'église locale. Mon ministère, avant d'être responsable du GBU, et encore après, c'est en tant que pasteur, et je trouve que c'est un lieu magnifique, local. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une église locale? À quoi ça sert et qu'est-ce qu'elle est? Donc, pour moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points qui, me semble-t-il, résument tout ce qu'il faut savoir sur une église locale. Ça ne veut pas dire qu'il y a tous les détails, mais ce sont les points essentiels. C'est ce que j'enseigne quand je vais dans certaines écoles bibliques pour parler de l'église locale. Cela veut dire que ce minimum-là, qui est clairement biblique, peut être vécu dans toutes les circonstances. C'était possible de le vivre, par exemple, dans l'église primitive à Jérusalem, ou à Éphèse, c'était possible de le vivre à Genève au XVIe siècle, c'est possible de le vivre parmi une tribu de Congo aujourd'hui, c'est possible à Montréal de le vivre aujourd'hui, parce que ce sont des points qui s'adaptent à toutes les cultures et à toutes les époques, et qui forment l'essentiel de l'Église locale. Alors, passons en revue ce qui est dit. D'abord, l'Église locale est un groupe de chrétiens qui se rassemble et qui persévère, et là je cite Acte 2, 42, dans quatre choses, comme les quatre pieds d'une table, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les quatre aspects de l'Église locale. Alors, le premier, l'enseignement des apôtres. À Jérusalem, c'était facile. Les apôtres étaient là. Les apôtres ne sont plus là aujourd'hui. Donc, on va dire que c'est l'enseignement que les apôtres ont laissé dans les Écritures. C'est donc le Nouveau Testament. Et donc, parce qu'on croit au Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on y croit aussi, parce que Jésus a dit que tout ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament était aussi la parole de Dieu. Donc on va se réunir d'abord pour l'enseignement. C'était intéressant tout à l'heure que quand on avait dit que ce qui était commun entre apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est l'enseignement. Parce que qu'est-ce que le Seigneur veut faire en nous dès notre conversion, c'est de changer notre pensée. Romains 12, et le verset 2 le dit très très clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. De changer notre intelligence, de changer notre pensée. J'ai fait une étude que j'ai mise sur une feuille recto verso de tous les versets du Nouveau Testament qui parlent du fait que notre pensée doit être changée. Il y avait assez de versets pour couvrir une page recto verso. Donc beaucoup plus de versets que par exemple pour le baptême. On y croit. Beaucoup plus de versets que sur le repas du Seigneur. on y croit. Vraiment, il y a des dizaines et des dizaines de versets qui disent que nous devons changer notre pensée. Et c'est évident. Pourquoi ? Quelle est la condition pour devenir chrétien ? Souvent, on me dit qu'il faut croire, mais c'est faux. Le premier message de Jean-Baptiste, le premier message de Jésus, les premiers mots même de Jean-Baptiste, les premiers mots de Jésus, les mots de Pierre à la Pentecôte et Paul après, c'est « repentez-vous et croyez ». Et le mot « se repentir » veut dire littéralement « changer de pensée ». Et quand on a changé de pensée, bien sûr, on va changer de comportement, on va changer de vie. Mais d'abord, c'est profond, c'est la pensée qui est changée. Si on ne change pas de pensée, le comportement n'est que extérieur. Et au fond de nous, on n'y croit pas trop, on n'a pas vraiment changé. C'est changer de pensée. Quand j'étais moi-même jébusien, il y a bien des années, j'avais un ami avec lequel on faisait des stands publics, ou enfin, des tables de livres dans la fac, et lui était très exubérant comme personnalité. Il aimait bien crier aux gens qui passaient devant le stand. Moi, je ne faisais pas ça, mais enfin, il criait aux gens qui passaient devant le stand avec une sorte de jeu de mots. J'espère que ça marche ici. Il disait aux gens, lisez la Bible, ça vous changera les idées. Mais au plus profond, changer les idées, ça veut dire non pas on va penser à autre chose, mais ça va changer les idées. Ou si vous voulez utiliser une expression que j'aime énormément, parce que ça vient de la psychologie sociale, et donc tout le monde aujourd'hui comprend, enfin, dans ces disciplines-là, ce que ça veut dire, c'est la représentation mentale. La représentation mentale. Pourquoi ? Parce qu'un être humain, à la différence, je pense, que de tous les autres mammifères, quand il reçoit une information, il passe par une sorte de filtre, il interprète en quelque sorte, par son filtre de compréhension. Et donc, il va dire, ah oui, mais il faut lire entre les lignes. Ou qu'est-ce que cette personne me veut vraiment ? Qu'est-ce que cette personne a derrière la tête, comme on dit ? On interprète. Et donc, chacun de nous, sans exception, avant d'être chrétien, on avait une certaine représentation mentale de la réalité. Un missionnaire m'a raconté une histoire, et je la raconte non pas parce que cette histoire est unique à ce pays, c'est quelque chose qui s'est passé au Bénin. J'espère qu'il y a quelqu'un du Bénin ici. Ah, donc tu vas comprendre un petit peu cette histoire, mais la même chose se passe dans toutes les cultures, hein, donc je ne vais pas... chacun a des représentations mentales. Alors, ce missionnaire, il est monté dans un taxi brousse et il pensait que le chauffeur conduisait un peu trop vite. Donc il a dit au chauffeur, écoutez, si vous acceptez de ralentir, je vous donnerai plus d'argent pour le voyage. Le chauffeur lui dit, mais à quoi ça sert ? Il dit, mais si vous roulez plus lentement, on risque moins d'avoir un accident. Le chauffeur dit, mais ça n'a rien à voir. Si on nous a jeté un sort, on aura un accident. Si on ne nous a pas jeté un sort, on ne l'aura pas. Non, tu comprends, hein, je pense. Ça, c'est assez typiquement béninois. Enfin, j'ai une de mes filles qui a passé une année au Bénin. Mais cela dit, dans toute, bah, par exemple en France, ce qu'on appelle la laïcité, c'est aussi une représentation mentale de la relation entre Dieu et les hommes, etc. Chaque personne a des pensées qui ne sont pas conformes aux pensées de Dieu. Et l'enseignement, on va transformer notre pensée pour penser comme Dieu le veut. C'est pour ça que l'enseignement est tellement important dans nos églises, pour transformer notre pensée. Donc voilà, la première chose sur l'église locale, c'est le lieu où on est enseigné. Deuxième chose, c'est la communion fraternelle. Bon, je n'ai pas besoin de beaucoup insister, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est là ensemble en tant que frères et sœurs. Et je trouve ça absolument remarquable. Avec Marie, on a pu voyager dans plusieurs pays du monde. Et dès qu'on rencontre un chrétien, on le sait, on ne sait pas, comment on sait, mais on le sent, c'est vraiment un frère en Christ, une sœur en Christ. Et voilà, on a la communion fraternelle. Mais cette communion-là, on la vit vraiment là où ce rassemblement existe. On se voit, on passe du temps ensemble. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile de vivre avec les autres, parce que c'est là l'église locale, un lieu d'apprentissage pour devenir disciple. Et comme je l'ai dit hier, il y a toujours des personnes dans les églises où on a un petit peu de mal à se comprendre. Ils ne sont pas comme nous. Je me souviens d'un frère qui m'a dit, il y a longtemps, dans une église où on était... quand on était étudiant, et cet homme devait accueillir chez lui chaque année un apprenti. Bon, c'était à l'époque comme ça. Et bon, une année, cet apprenti s'est converti par son témoignage. Mais il dit, mais vraiment, c'est quelqu'un de tellement différent que moi, je n'arrive pas vraiment à le comprendre. Enfin, c'est une lutte. Il a dit, le pire ce matin, je suis passé devant la salle de bain quand il se brossait les dents. Mais tout le monde se brosse les dents de la même façon. Mais non, lui, il tenait la brosse, il bougeait la tête. Et ça m'a agacé. Et ce sont des petites choses comme ça qui font qu'on a du mal, parfois. Il faut dépasser cela, parce que ça fait partie de la communion fraternelle. Ensuite, dans ce verset 42, il y a la fraction du pain. Bon, il y a... J'ai mis trois choses après, et je vais expliquer pourquoi. La fraction du pain, d'abord, on le dit en France, et en tout cas en France, casser la croûte. C'est ça, fraction du pain. On casse la croûte, on mange ensemble. Et les premiers chrétiens aimaient beaucoup ça, les agapes. Dans notre église, on mange ensemble après le culte deux ou trois fois par mois. Parce qu'on aime passer ce temps ensemble. Mais dans un premier temps, il semble que c'était à ce moment-là qu'on prenait la scène, parce que dans cette partie du monde, le bassin méditerranéen, le pain, le vin, ça fait partie de ce que l'on consomme à tous les repas. Donc, c'est comme si à la fin du repas, il restait un peu de vin, un peu de pain, et le responsable de l'église dit, bon alors, passons du temps maintenant à nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais on a des traces dans le Nouveau Testament, comme dans les Corinthiens, que ça ne se passait pas toujours très bien. Donc petit à petit, c'est devenu un repas un peu plus symbolique, si on veut. Ce qui n'est pas grave. Hein. Ça devient quelque chose de beaucoup plus symbolique plutôt que le vrai repas. Mais ce moment-là était aussi un moment d'adoration de Dieu. Donc j'ai mis cela en troisième lieu, parce qu'autrement, il y a très peu de mentions. Hein. Il n'y a que deux textes qui parlent du chant, par exemple, dans le Nouveau Testament. Donc on va dire que c'était un peu la suite aussi de cette adoration en pensant à la mort et à la résurrection de Jésus. Et puis, la quatrième chose, c'est dans les prières. Donc on prie ensemble. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, pas forcément dans l'ordre, mais cette église, donc, réunie, accueille tous les rachetés, donc tous ceux qui sont vraiment chrétiens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine. Donc, c'est dans ce sens-là sur un pied d'égalité. Et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il y a des textes qui disent il n'y a plus en Christ ni esclave ni libre, ni homme ni femme, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne devenait plus homme et femme, parce que forcément, on restait homme et femme. Mais ça veut dire au niveau de l'égalité de l'accueil. Et c'est justement ce qui est dit dans Romains 15 et le verset 7. Romains 15 et le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce que Christ a accueilli, je n'ai pas le droit de refuser. Et donc, une église sera toujours un lieu avec des gens très différents les uns des autres. Et on est différents, que ce soit nos origines. Un Suisse, il veut toujours que le culte commence à l'heure pile. Par exemple. Alors que je me souviens justement quand j'étais à Cotonou, une église où c'était marqué l'horaire des réunions et c'était marqué dimanche, culte, à partir de 10h30. Au moins c'était honnête. À partir de 10h30, voilà. Ou bien, on a dans nos cultures des petites différences à plein de niveaux. Et puis, il y a la différence homme-femme. Donc, c'est évident, un homme ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc, une femme peut faire beaucoup de choses en même temps parfaitement. Bon, faut reconnaître nos limites. Hein. c'est comme ça. Puis, il y a des jeunes et des enfants et des personnes âgées dans la même église. Et puis des tempéraments différents. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui sont beaucoup plus taciturnes. Enfin, on est différents. Et on peut dire, voilà, c'est notre église, on va apprendre à vivre ensemble et devenir disciples de Jésus. Donc on accueille tous les rachetés. Ensuite, c'est dans un lieu donné, forcément, puisque c'est une église locale. Mais là, on a une petite surprise. Parce que dans le Nouveau Testament, dans certains textes, ils vont parler de la ville, les chrétiens qui sont à Éphèse, non, c'est pas marqué Éphèse, ça c'est dans les Actes, voilà, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, 1er épître aux Corinthiens. Et puis, dans d'autres textes, on peut penser à Philémon par exemple, l'église qui se réunit dans ta maison. Alors, je ne pense pas qu'il faut faire toute une théorie là-dessus, mais c'est simplement pour dire que l'Église était locale, il était possible de venir à cette Église régulièrement parce qu'on n'habitait pas à 300 kilomètres. Donc, c'était un lieu donné où on peut rencontrer les autres. Bon, selon les lieux, c'est plus ou moins facile. On dit souvent en région parisienne, avec la circulation, ce n'est pas toujours aussi évident que cela. Et les horaires de travail que l'on peut avoir. Si on habite une région rurale, peut-être l'église, il faut faire plus de kilomètres pour aller dans la ville centrale de cette région rurale pour se retrouver. Donc, il y a des... On ne va pas chipoter, comme on dit, sur la distance qu'il faut parcourir pour se joindre à l'église. Mais c'est quand même une église locale où on peut se retrouver avec les autres frères et sœurs. Quatrième chose, il y a toujours des responsables reconnus, anciens et diacres, qui veillent sur la bonne marche de l'église. Bon, là, je pourrais parler longtemps, mais ce n'est pas le moment, sur l'organisation d'une église. Je dirais tout simplement, d'abord, pour le mot ancien, il y a au moins quatre termes qui sont utilisés, qui sont plus ou moins synonymes. Ancien, évêque, conducteur, dans hébreu, et pasteur. Encore que pasteur, c'est un petit peu limite, mais je vais expliquer pourquoi. Donc, ça veut dire quoi? C'est que les premiers chrétiens ont tout simplement pris le nom qui existait dans leur entourage. Un ancien, c'est joli, je suis ancien, mais ça, non, je suis vieux. Un ancien, c'est un vieux. Parce que dans les synagogues, c'était ceux qui étaient les responsables de la synagogue. Donc, ils ont emprunté le mot à la synagogue, avec un certain respect pour l'âge. Je me souviens, quand on était à Madagascar, j'ai posé la question à quelqu'un, mais comment ça se passe, le gouvernement de votre village? Combien de conseils municipaux? Il dit, bon, il n'y a pas de nombre fixe. Alors, comment on les décide? Est-ce qu'il y a des élections? Non. Alors, c'est qui? Ah bah, c'est tous ceux qui ont plus de 70 ans. Ça, c'est le conseil du village, parce qu'ils ont enfin acquis la maturité pour prendre les décisions. Donc, ancien, c'était emprunté à la culture juive, évêque, emprunté à la culture romaine, parce que ça veut dire, le mot c'était épiscopos, celui qui veille sur, ou surveillant. C'était utilisé par exemple pour le responsable d'un syndicat, le responsable d'une ville, d'une corporation, de métier par exemple. Conducteur, c'est plus clair, celui qui conduit, on va dire en anglais leader, parce que c'est conduire. Pasteur, c'est également utilisé, mais c'est légèrement différent, parce que déjà, le mot pasteur, c'est ce qu'il fait, c'est le berger qui conduit et nourrit le troupeau, alors que ancien évêque et conducteur, c'est beaucoup plus la charge. Mais on va accepter quand même que ce mot soit là. Donc, normalement, publiquement, c'est une collégialité. Il faut que chaque église, il y ait un groupe de conducteurs. Parfois, selon les églises, il y a un pasteur qui s'entoure d'un groupe d'autres responsables. Dans d'autres églises, il n'y a pas de pasteur, c'est un groupe d'anciens. Pour moi, le problème, c'est que le mot évêque et ancien ne veut plus rien dire dans notre culture. Si je veux me présenter au maire de mon arrondissement pour dire « je suis l'évêque », bon, il va me regarder de travers pour dire « mais je ne comprends plus rien ». Si je suis un ancien, on va m'envoyer vers le département des personnes âgées. Donc, ce n'est pas mieux. Donc, j'aime bien utiliser le terme « équipe pastorale ». En fait, au moins on sait ce que ça veut dire. Mais en général, donc, c'est un groupe. L'autre mot, diacre, c'est encore un mot un peu difficile à comprendre, parce que ça veut dire celui qui, une personne qui sert, qui a un ministre. Mais, en fait, tous les chrétiens sont appelés à servir. Alors, comment on peut dire que certains sont des serviteurs alors que d'autres ne le sont pas. Je me base sur deux choses pour affirmer que pour moi, un diacre, c'est un responsable d'activité reconnue par l'Église. Pourquoi je dis ça? D'abord, parce que quand Paul écrit aux Corinthiens, par exemple, il écrit... c'est pas vous... Bon, non. Pas dans les Corinthiens, mais dans voilà, aux Philippiens par exemple, aux saints, donc les chrétiens qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, donc il y a un groupe de diacres. Et dans 2 Timothée 2, il mentionne des qualités pour être diacre. Donc ça veut dire il y a certaines personnes qui sont choisies pour certaines tâches qui sont les diacres. Maintenant, je ne dirai pas plus, parce que comme j'ai dit, cet enseignement va être vécu dans toutes les cultures, partout, depuis tous les siècles, et selon les cultures, peut-être on va la vivre un peu autrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut des responsables dans l'Église. On est tous frères et sœurs, mais le Seigneur met certaines personnes en position de leadership, comment on va dire, position de responsabilité. Et pourquoi? Je vais juste rebondir sur une chose dans le texte que vous aviez lu tout à l'heure. Le verset 12. Pourquoi ces personnes ont été données? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints, donc les saints sont les chrétiens, pour faire avancer les chrétiens. Et pourquoi les faire avancer? En vue de l'œuvre du ministère. Donc ça veut dire que les responsables sont là pour former et aider les chrétiens à faire le boulot. Ce n'est pas aux responsables de faire le boulot, c'est à tous les chrétiens. Donc, les apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs et docteurs sont là pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est eux qui font le travail dans l'Église, à tous les niveaux. C'est révolutionnaire. Ça veut dire qu'on n'est pas passif dans une église. On est là pour être formé, pour agir selon ses dons, ce qui est d'ailleurs le point suivant. L'église locale, c'est là où chacun peut exercer ses dons. Et chacun, dans cette image de 1 Corinthiens 12, a un ou peut-être des dons pour que avec cette image du corps, pour que le corps puisse bien agir. Tout le monde n'est pas vu, tout le monde n'est pas oui, tout le monde n'est pas main, tout le monde n'est pas pied. Et si dans le corps il manque les yeux, c'est problématique. Chacun doit faire selon les dons qu'il a reçus. Et je dirais plus loin, parce que ce n'est pas tout de savoir quel est son don, il faut aussi que les responsables de l'Église forment les personnes et trouvent la place où ils peuvent exercer leur don. Donc la délégation, si on veut, la mise en place, la reconnaissance des dons est aussi importante. Sinon, on peut avoir les dons, mais on ne peut pas les utiliser. Donc, ça aussi, c'est donc c'est pas uniquement avoir les dons, mais exercer les dons. Point suivant, l'église locale, elle est là où on pratique le baptême et la Sainte Cène, le repas du Seigneur. On ne peut pas le faire au niveau international avec des millions de chrétiens en même temps. C'est localement qu'on peut faire cela. C'est quelqu'un qui s'est converti, qui se joint à l'église, qui demande le baptême. C'est au niveau de l'Église que l'on va pouvoir dire, annoncer avec les paroles qu'on dit souvent, qu'il ne faut pas prendre le repas du Seigneur indignement. Et on va avertir les personnes qu'il ne faut pas le prendre indignement, expliquer ce que cela veut dire. Donc c'est localement que cela se vit. Et c'est pour cela d'ailleurs, entre autres, que le GBU n'est pas une église. D'abord parce que quand je vous regarde, il n'y a pas beaucoup de personnes âgées ici, il n'y a pas beaucoup d'enfants ici, il n'y a pas de couple ici. Une église est constituée de tout cela. Et c'est dans l'église que l'on peut donc pratiquer le baptême et la Sainte Cène. Vous êtes une force missionnaire dans mon université. C'est là le rôle du GBU, d'apporter l'évangile à l'université. Mais ce n'est pas une église. Ça n'a jamais été une église, ça ne peut pas être une église. Quel est le signe distinctif de l'église? Jean 13, 35. Maintenant, vous allez partir en connaissant au moins ce verset-là. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça que l'on vit dans une église, et c'est dans l'église qu'on apprend à aimer. C'est facile à aimer les personnes qui nous ressemblent. Qui se ressemblent, s'assemblent. Ça, c'est pas difficile. Mais dans une église, on accueille tout le monde. Même les gens qui sont différents que moi. Donc il faut que j'apprenne à les aimer. Et c'est pas facile. Parfois c'est pas facile. Mais ça fait partie de ma maturation pour devenir vraiment disciple. Et donc dans ce verset, Jésus donne cela presque comme un test que même le non-chrétien peut utiliser. Le non-chrétien arrive, il dit, est-ce que c'est vraiment le peuple de Dieu? Je vais voir, est-ce qu'il y a de l'amour entre ces personnes-là? Si oui, bon, il sera quand même convaincu qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et puis, le dernier point sur l'église locale. L'église locale s'intéresse au bien-être de la société et annonce le salut en Jésus-Christ. Plus d'une fois, des personnes m'ont dit, mais pourquoi pas faire deux lignes? Et pour avoir 9 points. D'abord, l'Église s'intéresse au bien-être de la société. Deuxièmement, l'Église annonce le salut en Jésus-Christ. Et ma réponse est tout simplement parce que les deux sont tellement liés qu'il est difficile de les diviser. Si on veut apporter l'Évangile, c'est parce qu'on aime les personnes dans leur situation. Et si on aime les personnes dans leur situation, on veut leur apporter l'évangile. On ne peut pas les séparer. Et quand on regarde le texte de 1 Timothée 2, c'est extraordinaire. Parce qu'il commence avec la pensée qu'il faut prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc on prie pour les gouverneurs, les rois, les présidents, les premiers ministres, enfin, tous ceux qui sont en position d'autorité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, imperceptiblement, il commence avec le bien-être de la société, et il arrive à l'annonce de l'Évangile. C'est un tout. Donc, l'Église, pour donner un exemple, en même temps, je me souviens la même semaine, on a fait des soirées d'évangélisation dans notre église à Paris, et on s'est joint à la manifestation contre le projet de loi de mariage pour tous, parce qu'on pense que ce n'était pas bien pour la société. On a fait les deux choses dans la même semaine, parce qu'on pense que c'était pour le bien de la société, mais c'est aussi bien pour la société que des personnes comprennent l'évangile et se convertissent et changent de vie. Donc les deux choses ne sont pas à opposer l'une à l'autre. Voilà quelques pensées sur l'église locale, et j'espère que vous avez un peu piger mon enthousiasme pour l'église locale, parce que c'est vraiment un lieu extraordinaire. Malgré les personnes que nous sommes, c'est là où le Seigneur va nous aider à progresser. Certes, parfois, on va pouvoir dire, les choses ne se passent pas toujours comme je veux, on peut revenir à ça un peu plus tard.